Le lundi, c'est Podium. Merci d'avoir appuyé sur Play. Merci encore de nous accorder ces quelques minutes de votre temps précieux. Podium, c'est le podcast hebdomadaire animé par Julien Delbove et Jérôme Neff, qui décrypte et vulgarise l'actualité digitale pour les marketing managers et les décideurs. C'est le podcast de référence qu'il faut écouter pour se tenir à jour sur les trois actualités principales de la semaine dans le monde du marketing digital.
C'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium du mois de septembre. C'est la rentrée, alors on vous a concocté quelques petites nouveautés, comme on sait le faire. Salut Jérôme, comment ça va?
Ça va et toi?
Très très bien, j'ai des news Jérôme, aujourd'hui vraiment très très chouette, donc tu sais que moi je suis très axé Google Ads, et donc là mon monde est un peu en train de s'effondrer, je t'expliquerai pourquoi, avec l'AI notamment, et donc ça me permet d'embrayer sur les trois sujets du jour, donc Podium, toujours trois sujets d'actualité du digital. Donc du coup de mon côté on va parler de Search GPT et de Perplexity AI, je ne sais pas si tu as déjà entendu ces deux termes.
Perplexity, oui, récemment, parce qu'on me l'a fait découvrir, je ne connaissais pas, et pour tout ce qui est AI, tu parlais de ton monde qui s'est écroulé, ben, le mien s'est écroulé, je pense, un peu avant le tien, ou en tout cas, il a été impacté avant le tien. Donc, tout ce qui est AI, honnêtement, j'y touche assez peu, mais si on me l'a fait découvrir, et donc je l'ai testé il n'y a pas longtemps, et donc tu me diras un petit peu ce qui est dedans, ce dont tu vas parler, puis je te ferai part de mon expérience aussi.
Top. Et de ton côté, du coup, au niveau réseaux sociaux, comme ça pour rappeler pour les gens qui nous découvrent ici, moi je suis un peu monsieur Google, toi tu es un peu monsieur réseau. Et donc on ouais. Essaie toujours de se partager les points de vue entre les différentes plateformes. Donc de quoi tu vas nous parler toi aujourd'hui?
On va parler de Facebook qui essaye de reconquérir le cœur des jeunes, ou en tout cas de se repositionner sur ce segment-là, histoire de ne pas laisser la bataille gagner uniquement par notamment TikTok. Et donc gros enjeu par rapport à ça, et on verra ce que Facebook propose et les signaux qui existent justement par rapport à ce public un peu plus jeune de ceux qui sont dans la vingtaine.
Top. Du coup, on va commencer par le premier topic du jour. On va parler de Search GPT. Donc, vous l'avez reconnu dans la racine, il y a GPT. Ça fait penser à Chat GPT et effectivement, ça vient de la même boîte OpenAI. Donc, Search GPT, c'est quoi? Ça va être le moteur de recherche fourni par OpenAI. Donc, je vais juste faire une petite bifurcation ici. On ne parlera plus de moteur de recherche, mais on parlera de moteur de réponse. Parce que vous le savez, quand on fait une recherche, par exemple, dans Google, Google va nous sortir des résultats de recherche et on va devoir aller cliquer nous-mêmes sur ces résultats pour trouver les réponses à nos questions. Ici, le fait de passer sur du Search GPT, l'idée est que quand on pose une question, un peu comme dans Chat GPT, comme on peut le faire, c'est que l'outil nous propose une réponse qui répond à notre question sans qu'on doive nous-mêmes chercher dans différents sites, différents blogs, différents articles. Et donc du coup, c'est OpenAI qui a lancé ça, c'est en bêta pour le moment, donc si c'est en bêta, ça devrait sortir dans pas trop longtemps. On n'a pas eu l'occasion, nous, de pouvoir le tester, on s'est inscrit sur la bêta, on n'a pas été sélectionné, mais grosso modo, l'idée est que tu puisses non plus faire tes recherches dans Google et devoir, entre guillemets, prendre ton temps et te creuser les méninges pour passer au travers des résultats, mais directement qu'on te serve une réponse sur un plateau et que tu n'aies plus qu'à prendre ça comme argent comptant. Donc du coup, ce qu'il faudra voir encore une fois, et tu le sais, hein, c'est comme ChatGPT, la qualité de la réponse qui en sort dépend de la qualité de la data qu'on met dedans, à la base. Et donc ici, il faudra voir encore une fois, c'est toujours ce qui a été un petit peu trouble avec ChatGPT, c'est où est-ce que SearchGPT va aller chercher son information? Quelle va être la fraîcheur de cette info? Est-ce que ça va se baser sur des articles de news, sur des sites de news? Sur des sites, est-ce que cette data sera vérifiée? Comment est-ce qu'ils vont justement éviter les fake news pour que les fake news ne rentrent pas en réponse dans SearchGPT? C'est pas encore très très clair. Donc, du coup, comme je disais, c'est en bêta. Ça devrait sortir dans les mois à venir, je suppose. Et donc, pourquoi c'est important pour nous? Quand on voit le taux d'adoption de ChatGPT aujourd'hui, ils sont passés de zéro utilisateur à plusieurs millions ou dizaines de millions, si je dis pas de bêtises, en très peu de temps. On sait aujourd'hui que Google à la majeure partie de ce qu'on appelle du search mondial, mais qui dit que dans un an ou deux ans, la balance ne se restabilise pas avec ces outils d'AI qui vont venir un peu essayer de manger la part du gâteau de Google. C'est pas gagné, Google reste le category king au niveau du search. Google va comme d'habitude proposer des solutions et des contre-attaques. Mais c'est intéressant d'avoir ces plateformes, et surtout une plateforme de poids comme OpenAI qui fait son propre outil, à voir comment ce sera fait, à voir si ce sera bien fait. Mais je trouve ça assez, assez intéressant. Et comme je te disais, un peu mon monde qui s'écroule. Ce n'est pas encore le cas à 100%, mais pour tous ceux qui font du Google Ads, du Google Search, il va falloir solidement commencer à regarder ces outils-là, parce que ça remet en cause ben, justement les publicités sur le réseau de recherche, ça remet en cause le SEO, et comment est-ce qu'on va devoir adapter notre boulot à des moteurs de réponse et plus à des moteurs de recherche. Donc, ce n'est pas encore à ce point-là sur tes réseaux sociaux à toi, mais voilà, mais toi, potentiellement, qu'est-ce que tu penses de ça, du fait d'avoir des moteurs de réponse et plus des moteurs de recherche ?
Mais ce que j'allais dire, c'était plus une réflexion au niveau de la manière dont on fait du marketing, ou en tout cas des endroits où on va faire de la publicité, ou même sur du SEO. Je ne sais pas comment techniquement ça va fonctionner ou de quelle manière il va sélectionner les informations, mais ça rebat pas mal de cartes potentiellement. Où là, tu faisais un site qui était optimisé SEO, puis tu allais faire du search justement pour promouvoir ton site parmi d'autres sur base de queries et de recherches qui sont faites par différentes personnes. Donc, je pense que c'est un petit peu la même idée de shift ou de paradigme quand on s'est rendu compte que de plus en plus de gens faisaient des recherches sur TikTok ou sur Instagram pour avoir des inspirations sur des restaurants, sur des voyages, sur avoir des tips. Ça a impacté Google au niveau de la présentation des résultats de recherche. Donc, je pense que c'est, on est dans des transitions. Voilà, il y a potentiellement ChatGPT, on le fait pour avoir des inputs sur comment écrire quelque chose ou avoir des idées, des inspirations pour différentes choses. Il n'y a pas de raison que ça se limite uniquement à ça. On l'a vu avec tout ce qui est création vidéo, création de contenu. Donc, sur du search, potentiellement également. Mais avoir effectivement de quelle manière la qualité va y être, de quelle manière, au niveau publicitaire, on va continuer à avoir des possibilités. Ça me paraît ici directement difficilement concevable de se priver d'une aussi grosse partie de business sur du search en disant qu'on a une solution à la SearchGPT qui permet d'être dans un univers qui est fermé, qui va produire ses propres réponses. Et donc, sans avoir de couche publicitaire ici directement, je suis curieux de voir effectivement comment ça peut fonctionner, mais sur le principe, pour l'utilisateur lambda, je trouve ça potentiellement intéressant, de nouveau en étant critique par rapport au résultat qui est donné, d'avoir des sources, d'avoir différents types d'informations, mais à voir. Donc le jour où tu as la bêta, honnêtement, ça m'intéresse, ou si tu lis d'autres informations, je trouve ça intéressant, et pour tout le monde qui nous écoute, de voir effectivement comment ça fonctionne en tant qu'utilisateur et en tant qu'entreprise. Quels sont les impacts potentiels au niveau Google, au niveau de la stratégie qui existait au niveau des Google Ads jusqu'à actuellement?
Bah écoute, ça me passe le relais de manière très facile sur l'article numéro 2 où on va parler de Perplexity AI. Donc Perplexity AI, c'est comme SearchGPT en fait, mais qui existe déjà. C'est-à-dire que sur Perplexity, l'interface ressemble très fort à ChatGPT. En fait, tu vas poser tes questions et il va te sortir une réponse. Et ce qu'il va te mettre au-dessus de la réponse, il va te mettre les sources desquels il s'est servi pour te pondre cette réponse. Comme ça, ça te permet toi aussi d'aller, si tu veux, vérifier les sources d'où il a tiré son info. Et comme tu le mentionnais ici, si tu as des utilisateurs qui quittent Google, ça fait un manque à gagner au niveau publicitaire. S'ils vont sur une autre plateforme et que la base de données commence à grandir et que le volume de recherche commence à grandir, ça veut dire qu'il y a possibilité pour ajouter de la pub à cet endroit-là. On sait très bien, c'est toujours pareil, et même sur les plateformes, on voit ici, on parlait juste avant le podcast d'Instagram sur lequel on a de la pub, et sur Threads, maintenant la version texte de Instagram, on ne sait pas encore les cibler exactement, mais ça va arriver. Et donc ils font grandir la base d'utilisateurs, on en reviendra après, et tu pourras avoir de la pub. Et ça a été toujours un peu comme ça sur les plateformes. Et donc du coup ici, je reviens à Perplexity AI pour vous donner une idée de chiffres. Aujourd'hui, mensuellement, il y a à peu près 230 millions de, qu'on appelle de queries, donc de recherches mensuelles sur Perplexity AI. Mais il faut voir ça comme si vous arrivez sur Google, il y a un champ dans lequel vous tapez votre question et l'outil vous prend une réponse, littéralement. Et donc, du coup, la Perplexity AI, ils sont un petit peu en avance. Donc, ils n'ont pas le taux d'adoption qu'a eu ChatGPT, parce que ChatGPT reste le category king, le market leader là-dedans. Mais Perplexity AI arrive quand même aujourd'hui à avoir 230 millions de recherches par mois. 230 millions de recherches par mois, 230 millions de placements potentiels pour des pubs. L'idée n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, et donc ils ont annoncé ici ce mois-ci qu'à partir du dernier trimestre de l'année, ils vont proposer une offre publicitaire sur leur outil. Et donc cette offre publicitaire, elle va se décomposer en deux types de pubs. C'est-à-dire que quand tu vas faire une recherche dans Perplexity AI, il va pouvoir faire deux choses. La première chose, ça va être de te donner des ads en vidéo. C'est-à-dire que potentiellement, tu vas pouvoir avoir une annonce vidéo au-dessus de ta réponse, qui sera, d'après eux, en rapport avec la thématique de la recherche. Donc, si tu fais une recherche sur des montres, bah, potentiellement, tu pourrais avoir une pub de Rolex qui va s'afficher, une vidéo ads de Rolex qui va s'afficher au-dessus de la réponse que tu auras donnée Perplexity. Ça, c'est le premier type. Et le deuxième type, c'est pas encore 100% clair pour moi, mais je vais t'expliquer comme moi je l'ai compris. Ils appellent ça les questions sponsorisées. C'est-à-dire que tu vas poser une question, l'outil va te donner une réponse, et à côté de ça, il va te mettre des questions sponsorisées, c'est-à-dire des questions, d'autres questions adjacentes dans la thématique de celles que toi tu as posées à l'outil. Et donc, si tu cliques sur ces questions sponsorisées, le résultat qu'il va te donner sera non pas un résultat uniquement pondu par Perplexity, mais sera un résultat qui sera pondu par un publicitaire pour faire sa pub, comme on peut l'avoir avec une annonce sur Google assez classique, où c'est le publicitaire qui choisit ce qu'il écrit. Donc on voit que ces plateformes comme Perplexity ont déjà une base de données assez solide, mais qui n'est pas encore celle de ChatGPT, et on voit surtout que directement, ils pensent à des solutions publicitaires. Alors, on peut se poser la question, ben voilà, combien est-ce que ça va coûter éventuellement de s'afficher là ? Donc ils parlent pour le moment de prix qui sont quand même très très hauts, on parle d'à peu près 50 euros le coût par 1000 impressions, donc c'est quand même très très cher quand on compare ça à du Meta ici en Belgique. Jérôme, tu me dis si je me trompe, mais on tourne entre, pour faire une grosse fourchette, entre 2 et 10 euros pour faire 1000 impressions, pour vraiment donner une très grosse fourchette sur de l'awareness ou de la conversion. Et bien ici, on serait plutôt sur du 50 euros, 50 dollars pour le moment. Donc avoir la tarification qu'ils vont donner à ça et avoir la performance de ces différents types d'annonces. Parce que finalement, l'idée pour les publicitaires sur Google, c'est d'avoir des gens qui cliquent sur leur pub pour amener du trafic sur le site. Bah, ici, avec un outil de génération de réponses, l'idée est plutôt de donner tout sur un plateau. Et est-ce que les gens qui vont dans un Perplexity ou dans un SearchGPT vont être aussi intéressés de cliquer sur une pub pour aller vers un site ? Ça, c'est encore la question. Est-ce que les gens cliquent encore beaucoup sur les pubs ? Donc du coup, tu vois que cet écosystème du search, comme on l'appelle, évolue vraiment beaucoup avec des solutions qui arrivent déjà. Donc on verra comment ça va se passer avec l'arrivée de SearchGPT, qui probablement à terme trouveront un moyen de monétiser cette audience. Hein. C'est une boîte tech après tout, ils doivent rentabiliser, donc ils trouveront un moyen de le faire, parce que juste avoir les abonnements de ChatGPT, quand ils vont voir la masse d'adoption, ça va être un peu court. Donc on verra ce qu'ils feront, on verra comment on pourra utiliser ça. Ça ne veut pas dire que demain, on y sera en Belgique. Vous savez qu'on est toujours un peu quelques mois, quelques années en retard par rapport à ce qui se passe ailleurs. Mais voilà, sait-on jamais, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans, eh bien, le volume d'utilisateurs sur ces outils de search AI seront peut-être assez importants que pour éventuellement commencer à envisager de la publicité pour nos annonceurs belges sur ces plateformes-là. On n'y est pas encore, on se projette. Mais voilà, il faut garder ça dans un coin de la tête. Et donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, être un super expert en Google Ads, en Google Search, c'est super, mais il faut déjà regarder à ce qu'il y aura demain, parce que peut-être que dans quelques années, on ne sera plus sur du Search Engine, mais du Answer Engine, et qu'il va falloir travailler ça différemment, tant pour le payant, tant pour le SEO, comme tu le mentionnais. Comment est-ce qu'on pourra se référencer en référencement naturel pour apparaître dans les réponses de ces outils ? C'est encore un grand point d'interrogation aujourd'hui. Mais écosystème très changeant, très intéressant du coup. Donc j'ai encore un peu de boulot pour quelques mois, Jérôme, pour l'année prochaine. On ne sait pas, on verra. Donc du coup, toi, de ton côté, tu m'avais dit que on t'avait présenté l'outil Perplexity AI. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de le tester ?
Oui, je suis retourné dedans. En fait, c'est quelqu'un qui avait LinkedIn Premium qui m'a parlé de Perplexity. Alors, je ne sais pas le lien entre LinkedIn Premium et Perplexity, mais apparemment, il y en avait un. Où il y a pu en avoir un. Et donc, la manière dont lui l'avait utilisé et me l'a pitché, donc je l'ai utilisé, c'est qu'il avait demandé justement à Perplexity, sur base de son profil, sur base des informations que Perplexity pourrait trouver sur le web, de définir un petit peu l'évolution de son rôle professionnel dans les X années à venir. Et honnêtement, le résultat est assez intéressant. Donc, pour ça, il faut de nouveau qu'il a donné. Donc, il faut qu'on ait des informations sur votre profil, que vous ayez un profil LinkedIn, par exemple, bien rempli, que vous ayez des sources à droite, à gauche. Et donc, ça donnait, dans mon cas, une perspective sur les années à venir, sur les possibilités d'évolution, de sujets qui seraient intéressants à exploiter par rapport à mon profil. Et donc, je trouvais ça assez intéressant, notamment le côté sourcé, donc d'avoir effectivement les références qui sont utilisées pour construire la réponse. Qui est toujours intéressant dans un côté critique pour pouvoir se dire effectivement les sources qui ont été prises sont correctes, elles sont trop vieilles, ça fait référence à des positions que j'ai occupées il y a 5 ou 10 ans et c'est plus du tout d'actualité, ou il comprend mal en tout cas mon activité. Mais ici dans ce cas-ci, c'était assez intéressant. Et donc l'outil, je le trouvais pertinent. Sur le côté publicité, à voir si c'est une tendance générale du secteur. Alors, je pense qu'on est condamné à avoir de la publicité. Si c'est une initiative d'une seule plateforme, je suis curieux de voir, si tu mentionnais le nombre de requêtes qui sont faites au niveau mensuel sur la plateforme, de quelle manière la publicité va être un frein à l'adoption d'une plateforme comme Perplexity, ou va ouvrir l'appétit justement à des marques qui vont se dire, bah, vu le volume, vu l'évolution de la plateforme, on est prêt à brûler $50 au niveau du CPM parce qu'on va avoir de la visibilité en termes de placement. C'est un placement qu'on va qualifier de premium. Même si les gens ne cliquent pas, en tout cas, ils auront été confrontés à notre marque et on aura pu trouver de l'information intéressante. Donc, je suis curieux de voir. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est le double type de placement. Le placement vidéo, contextualisé ou qui a l'air d'être contextualisé par rapport à la requête qui est faite par la personne qui est sur la plateforme. Et le côté question-réponse, il se pourrait même très bien, en fait, que la plateforme fasse des questions-réponses pour toi. Tu pourrais lui donner un deck en disant ça c'est ma marque, ça c'est le tone of voice qu'on utilise, ça c'est les choses qui nous intéressent moins. Au final, ça pourrait être quasiment des choses automatisées qui se répondent, qui sont sponsorisées. Mais là aussi, je suis curieux de voir un petit peu l'introduction, on va appeler ça de liens sponsorisés, de quelle manière cette publicité quasi native va fonctionner. Donc, intéressant de voir sur cette plateforme-là. De nouveau, est-ce que c'est une personne, en tout cas une plateforme qui est dans l'initiative, qui est seule à y réfléchir, ou est-ce que ça va arriver par ailleurs? Je suis curieux de voir effectivement de quelle manière ça peut intéresser les gens ou pas du tout.
Ouais, clairement, je pense que ça, c'est le point de bascule. Une fois, à partir du moment où tu as une audience, que tu as une boîte tech qui doit rentabiliser, automatiquement, des solutions de financement doivent être mises en place. Donc, à voir comment ça va être fait, effectivement, est-ce que ce sera un frein à l'adoption ou pas, ça c'est une question. Mais je suis curieux de voir l'adoption de ces outils en Europe. Ben, voilà, en voyant l'ascension fulgurante d'un chat GPT, je ne serais pas du tout surpris de voir un search GPT qui va devenir commun dans quelques mois ou dans quelques années. Et puis encore une fois, tout dépendra aussi des partnerships. Imaginons par exemple un search GPT qui fait un partenariat avec une marque de mobile ou une marque d'ordinateur en disant le premier navigateur, ce sera le navigateur search GPT, ce ne sera plus Google ou ce ne sera plus Microsoft. Tu vas avoir une adoption qui est possible par ce biais-là aussi. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. Et donc, ce sera intéressant de suivre ça et de voir. Mais je vous tiendrai au courant dans les prochains épisodes à partir du moment si on a pu avoir un accès bêta à SearchGPT. Mais a priori, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Ce sera très similaire à Perplexity. Tout dépendra de la qualité et des sources de données qui seront dedans. Mais je vous en parlerai quand on aura des news et quand il y aura eu les premières pubs sur Perplexity. J'essaierai de voir un petit peu comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble pour avoir une description un peu plus claire. Mais voilà, écosystème assez changeant cette rentrée. Je pense qu'on dit ça depuis 3 ans, hein, chaque rentrée il y a toujours des nouveautés. L'année passée c'était ChatGPT, cette année c'est SearchGPT, les années d'avant c'était les algorithmes. Donc il y a toujours des nouveautés, on ne s'ennuie jamais. Et donc du coup, ça me permet de te passer le relais sur ton article aujourd'hui avec Facebook qui évolue aussi et qui essaye de venir reséduire les plus jeunes publics.
Oui, mais donc si comme moi ça fait pas mal d'années que tu es sur Facebook, il y a tout un historique et donc tu as pu voir l'évolution de la plateforme. Au début, tu étais connecté avec tes amis, c'était facile de voir des photos, tu pouvais taguer des gens, c'était assez évident. Là où maintenant, c'est devenu plus un espèce de mastodonte qui fait partie du décor, qui a évolué aussi en termes d'âge moyen des utilisateurs, donc on est plutôt vers la quarantaine. Et donc ça fait écho à une petite musique qu'on peut entendre régulièrement et qu'on entend souvent et qui peut poser question aussi au niveau des annonceurs, de se dire que Facebook, en fait, est une plateforme pour, entre guillemets, les vieux. Et donc, quand je dis vieux, on va se mettre à partir de 40 ans dans cette catégorie. Mais en tout cas, ce n'est plus la plateforme jeune, sexy qu'on a pu connaître. C'est devenu une plateforme qui a évolué, qui a ajouté des services, qui a rajouté des plateformes comme Instagram, comme Meta. On a Messenger aussi qui est dedans. On a Threads, dont on a parlé et dont on va reparler juste après. Donc, on voit que c'est une plateforme qui a des milliards, plus de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. C'est du mass-média. Dans la plupart des annonceurs avec lesquels moi je peux travailler et sûrement aussi de ton côté, on se rend compte que Meta est de plus en plus une plateforme qui nous permet d'atteindre un public large à un coût qui est relativement faible. Tu parlais entre 2 et 10 euros du CPM. Sur les campagnes de notoriété, effectivement, on peut être encore en deçà de 2 euros, mais on est sur des coûts qui sont relativement faibles, qui ont des petites évolutions de temps en temps, mais en tout cas, pour pas mal de gros annonceurs, Meta ou en tout cas Facebook est plutôt une extension de campagnes linéaires, de plans télé qu'on pourrait retrouver en disant on fait de l'affichage dedans et puis c'est très bien. Mais donc on a cette petite musique qu'on a régulièrement en disant bah, Facebook c'est bien, mais au final, qu'est-ce que ça me rapporte pour ma marque? Est-ce que les gens sont encore sensibles? Est-ce qu'il y a encore de l'engagement? Est-ce que je dois encore faire un focus sur le nombre de followers, sur le nombre de gens qui sont fans de ma page? Est-ce que ça vaut encore vraiment la peine? Et donc, par rapport à toutes ces questions-là, Facebook est occupé à passer aussi ses messages de manière gentille, discrète, mais de manière relativement stricte. Et donc, il y a eu deux articles par rapport à ça. Un premier qui est une source externe et donc qui mesure un regain d'intérêt de Facebook auprès des générations les plus jeunes. Et donc, on voit une légère courbe montante, là où Facebook, qui était dans plus de 70% des cas l'application préférée des teens, qui a chuté aux alentours de 30%, mais qui a été supplantée par des Snap, par des TikTok, voire par des Instagram. On voit que la courbe a l'air, en tout cas, de remonter tout doucement. Donc, c'est un signal positif pour Facebook. Et donc, une source interne, qui est vraiment un article de Facebook, qui se présente comme étant une plateforme potentielle pour répondre à tous les enjeux qui concernent les jeunes qui sont dans la vingtaine. Et donc, par rapport à cet article, on a trois topics qui sont repris et qui montrent de quelle manière ben, Julien, qui serait maintenant un jeune de 20 ans, Facebook est potentiellement une plateforme qui pourrait l'intéresser. Pour la première raison, c'est que sur Facebook, tu as des groupes et des groupes peuvent trouver la réponse à toutes les questions que tu pourrais avoir. Donc, tu veux, je ne sais pas moi, tu cherches quelque chose par rapport à la ville dans laquelle tu arrives, bah, tu as un groupe qui est là justement pour te dire dans ta commune, bah, sache qu'il y a tel bon plan. Au niveau des restaurants, tu as tel groupe qui existe. Au niveau sportif, tu as tel groupe qui existe. Et donc, il y a plein de groupes, plein de communautés qui existent dans Facebook. Ce sont des contenus qui sont hyper valorisés dans l'algorithme. Donc, tu les vois beaucoup plus qu'avant. On a déjà discuté au niveau des changements de l'algorithme. Mais donc, pour quelqu'un qui chercherait de l'information, à côté du search traditionnel, Facebook se positionne comme étant un acteur de référence justement dans l'engagement communautaire. On a d'autres plateformes qui jouent aussi sur le même sujet, mais en tout cas Facebook s'est clairement positionné sur le sujet. Et si je reprends mon expérience personnelle ou si je reprends même des plus jeunes, les groupes Facebook sont vraiment un moteur d'activité, de création de contenu sur la plateforme en tant que telle. Et donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que si Julien s'est installé dans une ville, il a potentiellement trouvé un logement. Ce logement, il doit pouvoir le meubler, il doit pouvoir faire des achats. Facebook a sa plateforme Marketplace. Alors, tu as peut-être déjà fait, toi, des achats ou essayé de vendre des produits sur Marketplace. Moi, j'ai arrêté, c'était un enfer sur Terre avec tous les spams qu'on peut avoir sur la plateforme. Mais ça continue à créer du sens et des gens parviennent à vendre des produits et des objets dessus. Mais donc, dans les besoins qu'on peut identifier auprès des générations les plus jeunes, Marketplace est une manière de répondre potentiellement à un besoin de trouver des fournitures, seconde main, bon prix, tout ce qu'on peut trouver sur Marketplace. Et dernier point, qui pourrait être le cas aussi pour toi qui rentres dans la vingtaine, c'est que tu veux rencontrer des gens. Ben Facebook a cette application dating qui existe en Europe, qui est active et qui est, en tout cas dans ma version de l'app Facebook, qui doit être la même que la tienne, qui est clairement mise en avant avec une icône en bas de l'application pour le moment, avec un petit chiffre de notification qui me montre combien de personnes parmi mes contacts utilisent l'application. Et donc, Meta est toujours très, très fort pour faire du teasing, pour essayer de pousser du contenu, de l'activité vers la plateforme. Mais donc, Facebook est clairement là pour se dire, voilà, par rapport à des enjeux auprès des groupes plus jeunes, on a des solutions qui existent, on a des réponses à apporter et notre plateforme qui a évolué, continue à évoluer et répondre à différents besoins. Aussi en termes de consommation de contenu, ben on a souvent parlé du newsfeed. Ici, de plus en plus, on est sur de la suggestion de contenu avec des formats vidéo. Facebook, Meta, Instagram a évolué, a proposé des reels et donc de plus en plus, tu vas pouvoir scroller, passer du temps avec des choses qui vont t'intéresser, basées sur tes intérêts, basées sur les contenus pour lesquels tu as montré un intérêt préalable. Et donc, Meta évolue aussi par rapport à ça. Et donc, on a une espèce d'écosystème qui se complète au fur et à mesure avec les différents points qu'on a évoqués ici dedans, avec tout ce qui est réalité virtuelle, avec le gaming, avec Oculus. Et on sait très bien qu'il y a des plateformes de gaming qui continuent à attirer pas mal de gens et notamment des plus jeunes générations. Et donc, on a une sorte d'écosystème qui existe, qui est une proposition de valeur qui est intéressante. Donc ça, c'est au niveau de la consommation et donc potentiellement pour des annonceurs, continuer à considérer Meta, pas uniquement en se disant on va toucher un public vieux. Non, on va pouvoir toucher, continuer à toucher un public jeune et on va venir concurrencer peut-être dans l'esprit un TikTok qui reste, en tout cas dans les préjugés, une plateforme qui est là pour séduire des plus jeunes. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, et ça, c'est un autre point, et on en a discuté juste avant, c'est que au niveau placement publicitaire, Meta est toujours dans une évolution constante. Donc, Meta développe des nouveaux services, des nouveaux produits. On a parlé des groupes. Ben, on peut faire de la publicité pour toucher des groupes. On a parlé de Threads. On a vu apparaître, et donc c'était un article de Bram van der Halen qui l'a mentionné, même si ce n'est pas actif pour le moment, on a vu apparaître dans les Ads Reports, donc dans les rapports publicitaires qu'on peut créer directement dans le Business Manager, un placement qui s'appelle Threads. Et donc, on voit que la plateforme est occupé à se développer, on est occupé à crédibiliser le contenu qu'on peut trouver sur la plateforme, on est occupé à recruter une base active sur la plateforme. Elle est mise en avant un petit peu partout. Donc, on en parlait juste avant, mais maintenant, quand tu es sur Instagram, tu scrolles dans ton feed et puis en un coup, tu as des petits inserts de threads avec des contenus qui t'intéressent. Ils sont bien choisis, ils vont faire en sorte que tu cliques, tu vas arriver sur la plateforme. Et donc, dans les contenus que tu vas trouver, bah, généralement, en tout cas, si je prends mon expérience, ça match assez bien par rapport à mes intérêts. Et un peu comme à l'époque, bah, tu vas voir un contenu, tu vas commencer à cliquer, voir les réponses qui sont données, tu vas continuer à scroller. Et donc, l'intérêt se base sur la crédibilité des contenus que tu vas trouver. Et donc, on voit que Meta est occupé à crédibiliser Threads, mais avec toujours cette petite musique de, voilà, si ça fonctionne, on va commencer à pouvoir intéresser des annonceurs. Un petit peu comme du paradigme AI dont tu as parlé juste avant. C'est très bien d'avoir une plateforme qui est 100% basée sur le contenu des utilisateurs, mais à un moment, on a la petite musique de la monétisation qui apparaît et on va pouvoir considérer comme, Threads comme étant une extension publicitaire sur laquelle aller faire de la publicité. Et donc, on a cet enjeu-là aussi de pouvoir continuer au niveau de Meta, de sensibiliser et d'aller recruter des nouveaux annonceurs ou de continuer à séduire les annonceurs actuels en vous disant les habitudes changent, on est présent sur ces changements d'habitudes parce qu'on arrive à répondre à des enjeux pour des générations plus jeunes et en plus de ça, vous annonceurs, vous allez pouvoir les atteindre grâce au placement publicitaire qu'on a développé dans des groupes, dans du marketplace, dans peut-être du dating, dans Threads, dans tous les placements possibles et imaginables. Donc, il y a du renouveau. Donc, même si Meta est un mastodonte, il essaie quand même de répondre à différents enjeux cruciaux pour lui en termes de visibilité autour des populations les plus jeunes.
Puis comme on l'avait déjà vu dans un report qui était sorti il y a quelques mois, c'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire que tu as des gens de toutes catégories d'âge qui sont sur différentes plateformes et on avait vu surtout, tu me dis si je me trompe mais si je me souviens bien, en moyenne en Belgique c'était on utilise en moyenne 3 ou 4 applications réseaux sociaux différentes par jour. Et donc effectivement tu as des jeunes qui vont être sur Snap, sur TikTok, mais qui vont aussi aller faire un petit tour pour voir les notifications sur Insta et pourquoi pas sur le mur Facebook. Et donc, en fait, il y a toujours un peu un balancier de ces audiences entre les plateformes. Et c'était le cas avec TikTok au début aussi. C'était la plateforme, il n'y a que des moins de 15 ans. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que les tranches d'âge 30-45 bah, sont fort représentées aussi. En fait, c'est juste des passages naturels de plateforme en plateforme. Et tu as justement, comme tu disais, ces plateformes qui amènent des nouveautés pour se tirer un petit peu la couverture et faire revenir des audiences qui n'étaient plus. Et je trouve que c'est intéressant, et pour les publicitaires, dans un média mix, bah c'est intéressant d'avoir ces différents touchpoints, d'accepter que ton audience n'est pas à un seul endroit. Elle est plus fortement représentée à un endroit ou à un autre, mais ça reste intéressant de les toucher à différents endroits. Et effectivement, comme tu le mentionnes avec Threads, je te l'ai dit juste avant, c'est mon petit chouchou pour le moment. Et c'est assez sympa de voir l'utilisation de ces... on va dire de ces nouvelles plateformes. Après, ça reprend un peu ce qui se faisait sur Twitter, enfin sur X maintenant, anciennement Twitter, avec du texte. Et c'est assez sympa de voir ces comportements sur ces nouvelles plateformes et de voir bah, effectivement derrière comment la plateforme mettra ça à profit. Est-ce qu'on aura des ads textuels dans Threads ou alors est-ce qu'on aura des ads classiques comme sur Insta, sur le feed carré ? Un peu curieux de voir comment ils vont faire ça, mais voilà, on en revient toujours à la même histoire. Quand tu as une base d'utilisateurs que tu peux monétiser, il faut bien le faire, mais à un moment donné, ça se monétise. Et je trouve, moi, cette plateforme Threads très intéressante dans son utilisation. Et je serais curieux, on pourrait peut-être faire cet exercice dans un prochain podium, c'est de regarder un peu s'il n'y a pas des chiffres d'utilisation entre, par exemple, X et Threads pour voir un peu la base d'utilisateurs ou entre Threads et Instagram, parce que comme tu disais, il y a des ponts entre les deux, pour voir un petit peu, avoir une idée de l'utilisation de ces différentes plateformes en Belgique. Je pense que ça pourrait être intéressant et éclairer pas mal notre audience. Donc, on va essayer de vous trouver ça. Et nous, on aime bien toujours se baser sur des articles et sur des chiffres. Donc, on vous donne toujours notre avis sur les articles, mais on se base toujours sur des chiffres et des articles qui sont sortis. Mais ouais, très intéressant aussi. Et voilà, c'est très changeant.
Juste un petit point sur Threads. Tu peux, depuis pas longtemps, avoir aussi des statistiques sur ton compte. Donc, tu as une partie insight qui a été rajoutée. Donc, de nouveau, ça participe à la crédibilisation, notamment pour attirer des créateurs de contenu, d'avoir des métriques, de voir un petit peu ton impact. Donc, il y a clairement un enjeu de deuxième souffle sur la plateforme. Il y avait d'abord cet effet d'annonce qui avait été lancé et puis l'automatisation des créations des comptes avec Instagram. Et maintenant, on arrive vraiment dans la deuxième partie du boulot. Donc, pour arriver à la partie publicitaire, il faut continuer à taper sur le clou. Et effectivement, on va vous trouver des chiffres sur l'utilisation, tout ce qu'on pourrait trouver sur Threads, histoire de vous montrer un petit peu de quelle manière ça se construit, de quelle manière ça évolue. Et est-ce que potentiellement c'est intéressant pour une marque d'aller y faire de la publicité et sous quel format? Ça, c'est encore inconnu en tout cas pour le moment.
Oui, parce que comme tu dis, le format est important. Ici, on parle de pub classique, donc bannière publicitaire. Mais comme tu le mentionnes, il y a des gens sur Threads qui ont des profils avec des centaines de milliers de followers et un engagement dingue sur chacune de leurs publications. Ben, ils pourraient eux aussi être influenceurs Threads, entre guillemets, et de pouvoir promotionner certains produits ou services au travers de leur contenu. Donc, il faut un peu prendre les deux pans, donc la partie pub classique et la partie influence. Mais ça va être assez intéressant de voir ça et comment est-ce que Meta va monétiser ça et vraiment comparer ça aux autres plateformes. Ben, on sait, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, c'est toujours un peu très changeant avec X et Twitter. Et donc, ce serait curieux de voir où est-ce que se positionne Threads par rapport à ça pour l'instant et de pouvoir un peu mesurer ça. Bah écoute, Jérôme, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. C'était trois news vachement, vachement intéressantes, avec un paysage digital qui est très changeant. Donc, on essaye de se donner toujours un rendez-vous une fois ou deux fois par mois pour vous tenir au courant de l'actualité et de toujours traiter ça avec un angle extérieur et se mettre du côté des annonceurs et voir comment justement vous pouvez utiliser tous ces outils au mieux pour votre marketing. Jérôme, on se dit à bientôt. On se retrouve d'ici quelques semaines pour un prochain épisode. Et on espère qu'avec ce contenu, vous aurez de quoi discuter pendant vos lunchs à la rentrée avec les collègues. Salut Jérôme, à bientôt.
Salut Julien.